l'avant-dernière de ce cycle, ce troisième cycle des ateliers consacrés aux femmes peintres. Il y aura donc une ultime séance la semaine dernière. Pardon ?
Prochaine. Vous avez dit dernière.
La semaine prochaine. Ça commence bien.
C'est rassurant.
De toute façon, c'est bien parce que c'est pas moi qui vais parler, c'est vous. Donc, je voudrais que nous commencions cette séance par une petite révision de la séance d'avant. Vous savez, ces ateliers sont très pédagogiques. Hein. Le but, c'est d'apprendre des choses, mais de confirmer les connaissances. Là, c'est la fois d'après. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Puisque la fois dernière, nous avions vu dans un deuxième temps un certain nombre de femmes peintres du XVIIIe siècle. Mais je vous propose de revoir justement avec les mêmes tableaux, vous voyez, ce sont des ateliers très soft tout de même, hein. Je vous propose de revoir les mêmes œuvres pour que nous essayions de retrouver les artistes que nous avions déjà évoqués la fois dernière, mais après je vous proposerai deux petits exercices qui permettront, toujours sur le 18e et le début du 19e siècle, de retravailler cet ensemble de femmes peintres de cette période. Alors, comme d'habitude, nos petites règles, vous les connaissez par cœur. Et le premier exercice qui va donc être de renouer avec les artistes que nous avons vus la dernière fois. Les tableaux, vous les connaissez,
ah, oui.
Ce sont les mêmes. Reste à maintenant se rappeler quels sont les artistes, artistes sur lesquels nous avions travaillé la dernière fois. On avait vu quel était le répertoire, dans quel sens on travaillait. On ne va donc pas revenir là-dessus. Maintenant, on va essayer simplement de réidentifier les artistes dont il s'agit. Est-ce que vous vous souvenez de l'artiste naturmortiste et fleuriste dont vous voyez ici une œuvre ? Voilà, Rachel Reusch, ça peut être quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûr de mon hollandais ou de mon flamand, mais enfin, voilà, parlons de Rachel Reusch. Très bien. Autre artiste ici ? Pas Vigée Lebrun. Non. On n'est pas très très loin, il s'agit effectivement de Marie-Victoire Lemoine. Hein ? Et là, Françoise Duparc, hein, Françoise Duparc, une artiste dont nous avions vu qu'elle était effectivement très aguerrie à ses scènes de genre. Hein. Françoise Duparc, donc. Une Italienne. Pardon ? Giulia Lama, absolument, hein, Giulia Lama, hein, cette artiste vénitienne du XVIIIe siècle. Intégrez bien tout ça, parce qu'il va falloir retrouver ça à travers d'autres œuvres de ces mêmes artistes dans un instant. Hein. Pour l'instant, c'est simple, vous n'avez qu'à lire vos notes, ou à lire dans votre tête. Hein. Mais dans un instant, ça va être plus compliqué, parce que je vais vous montrer des autres œuvres de ces mêmes artistes, très caractéristiques, et il va falloir les retrouver, et cette fois dans un autre ordre. Et avec d'autres artistes encore. Hein? Donc pour l'instant, c'est du beurre, n'est-ce pas ? Asseyez-vous, Eddy. Bien, donc Giulia Lama, très bien. Rosalba Carriera, hein, cette pastelliste dont nous avions parlé, également vénitienne, toujours du XVIIIe siècle, bien sûr.
C'est Adélaïde.
Adélaïde quelque chose.
L'abbaye Guillard.
Adélaïde l'abbaye Guillard. Hein, une des filles de Louis XV. D'accord. Très facile. Ah, mais il me faut son nom. Marguerite Gérard. Hein. Donc la belle-sœur de Fragonard, effectivement. Hein.
Balayer-Coster. Anne Balayer-Coster.
Anne Balayer-Coster, absolument. Anne Balayer-Coster, avec cette nature morte très étonnante. Hein. Bien.
C'est ça.
Vigée Lebrun, c'est un tableau qui vous avait beaucoup surpris. J'avais à dessein choisi un tableau qui n'est pas le plus connu d'Hyjamin Vigée-Lebrun. On connaît bien ses portraits, mais c'est quelqu'un qui a fait également des académies. En voilà une. Fait.
Artemisia. Non, enfin.
Angelica Kaufmann, on avait parlé de cet artiste néoclassique, et je vous avais parlé, nous avions évoqué cet épisode, Cornélie, mère des Gracques, d'accord, hein. Et enfin, exactement, Madame Terbuche, on l'appelait Madame Terbuche en France, Anna Dorothea Terbuche, avec ce portrait en ébé. Bien. Voilà donc le Gotha de la peinture féminine en Europe au XVIIIe siècle. C'est des noms que vous devez connaître sur le bout du doigt. Hein? Ah si, non, c'est pas une possibilité, c'est une obligation. Hein? Il s'agit là du panthéon des artistes femmes au XVIIIe en Occident. On les connaît, forcément. Hein? Il n'y a pas de choix, c'est une obligation. D'accord? Mais pour transformer l'essai que nous venons de faire, nous allons maintenant revoir des œuvres de ces artistes, mais dans des ordres, d'autres œuvres, mais aussi caractéristiques que celles-ci. Hein. Je vais donc vous montrer dans un ordre... Entrez. Dans un ordre tout à fait autre que celui-là, d'autres œuvres de ces mêmes artistes, des œuvres tout aussi caractéristiques. Vous allez donc devoir reconnaître les artistes. Et je me suis également évertué à instiller à l'intérieur de cet ensemble d'autres œuvres, d'autres artistes qui ne sont pas les mêmes. Hein, et qui sont toujours femmes. Hein. Nous sommes sur la peinture femme. Nous allons jusqu'au bout, n'est-ce pas, dans ce travail. Donc ce sera des peintures femmes, enfin de peintres femmes, mais un peu plus tardives, c'est-à-dire de la première moitié du XIXe siècle. Donc vous aurez quand même une possibilité pour vous y retrouver, parce que les œuvres que vous allez voir, il va falloir que vous regardiez, un, si elles correspondent aux artistes que maintenant vous connaissez tous, c'est toutes, qu'on vient de revoir, facile. Il va falloir peut-être que vous identifiez les sujets. Il va falloir peut-être également que vous identifiez l'époque à laquelle elles ont été réalisées. Bref, voilà le petit méli-mélo que je vous propose. Là, on vient de voir 11 tableaux. On va en voir 21 dans un instant, des œuvres des 21 artistes qu'on a déjà vus, mais 10 de plus, datant encore une fois de la première moitié du 19e siècle. On est d'accord sur la règle du jeu ? On commence ? On va commencer soft. Tableau numéro 1. Figez-les-moi. Vous voyez, quand je vous dis que vous pouvez trouver, vous trouvez. Un tableau fameux d'Elisabeth Vigée-Lebrun, un portrait, le portrait de la duchesse de Polignac, très célèbre, avec son fameux chapeau hein, qui a fait florès dans les peintures d'Elisabeth Vigée-Lebrun. Pas de problème. Elisabeth Vigée-Lebrun, vous la connaissez. Hein. Je vous ai quelquefois apporté également des autoportraits des artistes en question. Je pense que quelquefois c'est bien d'incarner un peu les artistes dont nous parlons. On a déjà essayé de le faire pour les artistes précédentes, on va le faire aussi aujourd'hui. Voilà donc un autoportrait d'Elisabeth Vigée-Lebrun. Par parenthèse, qu'est-ce que vous auriez à dire en confrontant ces deux œuvres, ce portrait de la duchesse de Polignac et cet autoportrait d'Elisabeth Vigée-Lebrun? Est-ce que, pour vous, ils ressortissent de la même manière de peindre? Non. Quelle serait la différence? Rapidement évoqué. Hein. Ça, c'est plus figé, et ça, c'est plus vivant, c'est ça que vous voulez dire. Oui, si l'on veut.
C'est plus intime.
Ça, c'est plus intime, effectivement. C'est un autoportrait, c'est plus intime. Là, on est dans un portrait peut-être plus officiel, encore que la duchesse de Polignac soit là dans une tenue comme on les aime au 18e, c'est-à-dire une tenue convenable, mais une tenue qui, j'allais dire, est un chic négligé, hein, ou plutôt un négligé chic. Ça a l'air très simple, c'est très difficile, et surtout c'est très cher. Hein. Donc elle est là, vous le voyez, on a l'impression qu'elle vient en 30 secondes de mettre, de passer je ne sais quelle robe et autres. En fait, tout ça est très étudié, mais cette espèce de négligé chic, c'est très très à la mode, hein, fin du 18e. Hein. Quand vous regardez cette œuvre-là, qu'est-ce qu'elle vous dit d'autre? Vous dites en effet qu'elle est plus intime, c'est la mère et sa fille, la peintre et sa fille. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre par rapport, par exemple, à la mode vestimentaire ou la manière de se coiffer? Il y a peut-être autre chose. Voilà, absolument. C'est à l'antique, absolument. Hein. C'est-à-dire que l'œuvre que vous avez là est complètement à l'antique, alors que dans l'œuvre précédente, on est bien au XVIIIe siècle, hein, la princesse, la duchesse Polignac avec son chapeau, etc., c'est vraiment une femme du XVIIIe avec la mode de son temps. Là, on a effectivement la volonté, dans ce tableau qui date de l'époque du déclenchement de la Révolution, hein, on est là dans une peinture à l'antique. Hein. D'ailleurs, la robe est une robe à l'antique, la coiffure aussi. Comment est-ce qu'on appelle ce courant à l'antique qui, justement, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, on en a parlé la dernière fois. C'est le néoclassicisme. Hein. On est là devant un tableau très néoclassique. Bien. Vous voyez, c'est facile, finalement.
Voyons.
Deuxième tableau. Alors, quel est l'artiste, j'en enlève mon pleuveur, quel est l'artiste qui a réalisé le tableau que voici? Facile. On n'a pas 50. Anne Valéier-Coster. Hein. De quoi est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a vu d'elle encore il y a un instant? La nature morte. Avec quoi? Des coquillages. Qu'est-ce que l'on avait dit par rapport à ce type de nature morte la fois dernière et que l'on retrouve dans un tableau tel que celui-ci? Oui, c'est construit, oui. C'est très précis, hein. Qu'est-ce qu'on peut ajouter encore? C'est construit, c'est précis. Pardon? Beaucoup de détails. Et ces tableaux, ils valent pourquoi? Quelle est l'idée qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'on cherche à évoquer, à faire comprendre? Oui, c'est effectivement un tableau dans lequel on voit tous les attributs des arts, absolument. Et la manière de réaliser cette manière précise... Pardon? C'est en effet très architecturé, très organisé. Hein. Et vous avez dit que c'était très précis, qu'il y avait vraiment du boulot là-dessus. Hein. Quels sont les adjectifs qu'on pourrait encore donner, qu'on a employés la dernière fois, par rapport à ce genre de peinture-là? Rappelez-vous, là aussi, la dernière fois, hein, de ces coquillages, de ces coraux. Enfin, on avait une planche d'histoire naturelle devant nous. Hein.
Et il y a un réalisme.
Une sorte de réalisme. Et encore de virtuosité, de prouesse, absolument. C'est-à-dire que ça, c'est très important. L'idée, c'est de se dire, n'oubliez pas que nous sommes avec une femme peintre. Hein, et être femme peintre au XVIIIe, c'est plus possible peut-être que dans des périodes antérieures. Enfin, il faut un peu mouiller sa chemise. Hein. On a intérêt à prouver qu'on sait peindre. Hein. Donc une femme peintre qui fait de la nature morte, elle doit un peu damer le pion, si vous voulez. Alors on pourra faire des petites natures mortes à gogo, si vous voulez. Il lui faut faire de la nature morte qui soit virtuose, où on voit vraiment qu'elle fait, qu'elle va vraiment dans le fond, qu'elle sait travailler avec une espèce d'exigence de réalisme, hein, presque hyper réaliste, les œuvres qu'elle propose. Donc il y a en effet cette volonté de virtuosité tout à fait étonnante, hein, qui est là pour vraiment prouver sa qualité en quelque sorte de peintre. Anne Valéier-Coster, voilà un portrait qui n'est pas un autoportrait, hein, c'est un portrait d'elle, fait par un artiste qui s'appelle Alexandre Rosslin, ou Rollin, comme vous voulez, qui est d'ailleurs originaire de Suède, hein, mais qui a passé une grande partie de sa vie en France, et qui a notamment réalisé ce portrait de Anne Valéier-Coster, que vous voyez ici. Troisième tableau. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Pas grand-chose, visiblement.
Bah, c'est un peu plus tard. C'est début.
Alors, ça pourrait. Rappelez-vous que, je vous l'ai dit, hein, dans les 21 tableaux qu'on est en train de regarder, il y a des tableaux des 11 artistes que nous avons déjà vus, ok? Et il y a 10 tableaux d'artistes dont on n'a pour l'instant pas parlé et qui sont du début du 19e. Vous avez bien entendu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein? Pardon ? Eh bien voilà, ça en est un, effectivement. C'est-à-dire que le tableau que vous voyez là n'appartient pas à la série des artistes qu'on a vus tout à l'heure. D'ailleurs, quand vous regardez ce tableau, est-ce que vous arrivez à le dater ? Est-ce que vous trouveriez, rien qu'en le regardant, hein, des éléments qui vous permettent de savoir de quelle époque il peut dater ?
1820.
autour de 1820, absolument. Hein. Oui, oui. Et qu'est-ce qui vous fait dire, justement, qu'on est là, dans ces périodes-là ?
La composition, l'allure générale, les vêtements, le côté un peu précieux aussi.
Oui.
Un peu romantique, déjà.
Absolument. On a là, effectivement, à travers... Alors, hélas, la lumière est un peu forte, hein, mais à travers, en particulier, les vêtements... Hein, on est là devant quelque chose qui est plus tardif, n'est-ce pas, que cette mode 18e, plein 18e, rappelez-vous du portrait de la duchesse de Polignac par Vigée Lebrun, ou même de la mode néoclassique, on est là après. Hein. Cette scène représente quoi d'ailleurs? Qu'est-ce que vous y voyez?
L'une des femmes se pare et elle se regarde dans un miroir.
C'est ça, absolument. On a deux femmes... l'une à droite, l'une à gauche, et toutes les deux tiennent sur leurs genoux un miroir, et elles se regardent dans un miroir. Aujourd'hui, à notre époque merveilleuse, hein, on se regarde plus dans les miroirs. On a des petites choses et on fait des selfies, vous savez. On est autrement plus moderne aujourd'hui. Hein. C'est tellement plus poétique. Hein. Voilà. À l'époque, on se regarde dans un miroir. D'ailleurs, vous voyez que celle de gauche est en train de remettre sa couronne en place pour être un peu plus joliette dans le miroir où elle se mire. Hein. Voilà. Donc, on a deux jeunes femmes qui se regardent dans un miroir. On a une idée peut-être de l'endroit où on se trouve. Comment vous décririez ça ?
Il y a un lac.
Oui. Alors, il y a visiblement un lac à l'arrière, oui. Une rotonde.
Oui.
Une pergola. Hein. On est sous une pergola. Hein. On devine quelques vignes qui s'accrochent. Hein. On est où ? On est sans doute en Italie. Hein. On est sans doute en Italie. Alors, ces deux jeunes femmes italiennes, peut-être dans le nord de l'Italie, dans la région des lacs peut-être, il fait beau, on se met à Londres sous une pergola, il y a un peu de vigne, le printemps ou l'été, là, c'est plutôt l'été d'ailleurs, puisque tout est très poussé. Voilà, ça correspond à quelle phase de l'histoire de l'art occidental? C'est quoi ça? On est à quelle période? C'est le romantisme. Hein. On est là devant une œuvre absolument romantique, 100%. Hein. Quand vous regardez ça, vous pensez à Stendhal, hein, Chartreuse de Parme, etc. On est absolument là-dedans. C'est une œuvre, voilà, Lamartine. C'est une œuvre absolument romantique, une œuvre absolument totalement romantique, hein, d'une peintre très active à l'époque romantique. Comme toutes les peintres femmes, elle n'est pas connue, parce que, bien entendu, les peintres femmes sont nulles. On l'a vu la dernière fois. Hein. Elles sont nulles, donc on n'en parle pas. On n'en parle jamais. Hein. Le but ici, c'est de sûrement montrer qu'elles ne sont pas nulles et qu'il est grand temps d'en parler. C'est hein. Pour ça qu'il faut les connaître. Ça nous concerne, ça. Hein. On doit connaître les peintres femmes, parce qu'elles sont importantes. Celle-là, elle s'appelle Hortense Audebourg-Lescaut. Pas connue, encore une fois. En plus, elle a un nom un peu à rallonge, toujours compliqué. Mais Hortense Audebourg-Lescaut est vraiment un artiste capital dans la France du début du 19e siècle, parce qu'elle est absolument typiquement romantique. Hein. C'est vraiment une artiste romantique pur jus, si vous voulez. Hein. Et ce tableau-là est très typique de son travail. Alors, comme d'habitude, hein, pour regarder un peu, incarner un peu le personnage, je vous montre son autoportrait, très beau, hein, que vous connaissez sans doute. Il est accroché au Louvre. Hein. Au Louvre, il suffit de se promener, on voit plein de tableaux de peintres femmes. Hein. Le problème, c'est qu'on ne les regarde pas. Bon. Mais il y a plein de tableaux de peintres femmes, notamment ce sublime autoportrait de Madame Audebourg-Lescaut. Très beau, hein. On continue avec ce tableau numéro 4.
C'est combien de
chenilles ? Pardon ?
Ça ressemble beaucoup à Dentelière, comme on l'a
vu. Oui, absolument. De qui ? Duparc. Son petit prénom ? Françoise. Françoise Duparc. Hein. On est effectivement ici devant une œuvre de Françoise Duparc. Hein. Vous avez dit que ça ressemblait beaucoup à la Dentelière, vous avez raison, c'est de la même. Hein. Ce répertoire, c'est quoi, décidément ? Qu'est-ce qui intéresse Françoise Duparc ?
La campagne.
La vie simple.
Le
travail. On l'avait comparé à qui la semaine dernière ? Chardin. Chardin. Et effectivement, plus tard, hein, un artiste comme Millet, un petit siècle plus tard, hein, quelqu'un qui reprendra au bon cette balle-là, si j'ose dire. Hein, ouais. Mais Chardin est un artiste qui va tout faire dans ce sens-là. Il y en a quelques autres aussi. Hein, voilà. Et cet intérêt pour, j'allais dire, les travaux ordinaires d'une petite bourgeoisie ou d'une haute paysannerie, pour vous, il résonne avec quoi dans l'histoire de notre continent au XVIIIe siècle? Voilà, d'une part, oui, on va dire une confirmation même de la bourgeoisie, oui. Oui.
C'est comme creuse du
Voilà, alors évidemment, hein, la révolution vient pas comme ça du jour au lendemain, hein, elle vient aussi du fait de cette sorte d'intérêt, hein, qu'on a de plus en plus vers des niveaux de la population auxquels on ne s'intéressait pas trop jusque-là, hein, sauf certains domaines de l'Europe, par exemple les Nordiques, les Hollandais, les Flamands s'intéressaient beaucoup à ça, Mais en France, représenter des paysans, ça n'a jamais, à part au XVIIe, des gens comme les Lenins, hein, mais ça n'a jamais traumatisé grand monde. Et bien au XVIIIe, on essaie de donner une sorte de noblesse picturale à ces populations laborieuses, pour faire vite. Hein. Voilà, donc voilà une œuvre de Françoise Duparc, hein, l'auteur effectivement de La Dentelière. Hélas, on ne connaît pas, du moins pour l'instant, de portrait de la dite Françoise Duparc, je ne peux donc pas vous en montrer. Cinquième peinture. De quoi s'agit-il? Alors, encore une fois, hein, ce qui nous intéresse, c'est éventuellement de savoir si cette œuvre correspond à une œuvre d'une des artistes que l'on a révisée tout à l'heure. Ça, c'est le premier point. Qu'est-ce qu'elle représente? De quoi ça... Donc, vous pensez que... Donc, on serait là devant... Alors, d'abord, est-ce que... cette peinture correspond aux artistes qu'on a déjà vus.
Non, tellement.
Effectivement, c'est pas une peinture d'une artiste que l'on a déjà vue. Vous la situeriez quand, au niveau chronologique? Début 19e. On est effectivement au début du 19e.
Ça fait très corse.
Ça fait très... un côté corse, oui. Vous disiez quoi, madame? Très Goya, c'est vrai. Il y a un côté Goya. Vous disiez quelques-uns, il y a un côté espagnol. Hein, hein. C'est vrai qu'il y a un petit côté hispanisant, on a l'impression, il y a un côté sud, hein, en tout cas. C'est l'espèce de la Mantille. Hein. Alors, c'est une œuvre française, hein, mais il y a effectivement un petit côté hispanisant. Qui vient de quoi, d'ailleurs? Oui, une sorte de... sinon d'orienter, parce que l'Espagne, c'est... mais voilà, en tout cas, un intérêt... hein, c'est ça. Un intérêt pour l'altérité, notamment l'Espagne. Hein. L'Espagne est très à la mode en France au 19e siècle. Hein. Carmen n'en est qu'un exemple, hein, mais il y en a bien d'autres, et tardif encore. Hein. Donc l'Espagne est très très à la mode. Hein. On s'habille en espagnol. Hein. Et donc cette mantille-là, très goyesque, hein, si la touche était un peu différente, on se dirait que c'est une œuvre de Goya, effectivement. Hein. Et quelque chose, en effet, qui montre cet intérêt pour l'Espagne. Alors, c'est l'artiste qui a réalisé ça, et ça, bon, vous le connaissez, il est au Louvre. Il suffit d'aller au Louvre. Hein. Hein, si vous allez au Louvre, vous le voyez. Voilà. Hein. Alors, il faut y retourner. Hein. Et il ne faut pas aller dans toutes les salles où tout le monde va toujours. Il faut aller dans d'autres salles où vous verrez des choses étonnantes. Hein, dont ça. Donc, c'est une œuvre d'une artiste qui s'appelle Marie-Denise Villers. Hein. Par parenthèse, c'était la sœur de Madame Lemoine. Vous vous rappelez de Madame Lemoine, hein? Le portrait de femme peintre dans l'atelier que je vous ai montré tout à l'heure. Eh bien, sa sœur... alors, évidemment, elles n'ont pas le même nom parce que chacune s'est mariée. Évidemment, elles ont pris le nom du mari. Bon, donc il faut s'y retrouver après. Mais elle est donc la sœur de cette Madame Lemoine dont vous avez vu un tableau tout à l'heure. D'accord? En fait, elles étaient trois sœurs et les trois ont été peintres. Voilà. Donc, elle. Qu'est-ce qui fait l'intérêt de ce tableau? Vous avez souligné la veine espagnole, ça c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant aussi, de singulier, de particulier?
Un geste inhabituel.
Pardon?
Un geste inhabituel.
Un geste inhabituel. Voilà. Elle est en train effectivement de lacer sa chaussure. Hein.
On la surprend un peu.
On la surprend un peu. Qu'est-ce que vous auriez à dire justement sur ce geste-là un peu inhabituel? Vous connaissez beaucoup de tableaux, on voit qu'il est en train de lasser ses deux lasses. Pas trop, hein. Alors, hein. Pardon. Alors, 19e, 20e, on trouvera ça, mais là, on est au début, hein, on est en 1802, hein, donc on est très tôt. Hein. Et donc, qu'est-ce que vous auriez à dire justement sur ce geste qui est ici représenté? Qu'est-ce que ça vous suggère? Oui, il montre sa cheville, oui. Oui, oui. Qu'est-ce que ça... Pardon. Alors, c'est pas... À vrai dire, on ne sait pas qui c'est, du moins pas sûrement. C'est peut-être Madame Soustras, mais c'est pas sûr. En tout cas, c'est pas forcément une danseuse, non. Alors voilà, il y a une dimension de séduction, hein, avec un rien de séduction un peu érotique. Hein. Elle montre sa cheville, elle est assez séduisante. Elle a une mantille qui tombe artistement, qui laisse voir un œil un peu moins l'autre. Il y a là une coquinerie un peu minaude qui peut tout à fait convenir à une dimension de séduction de cette œuvre.
Oui, hein. Mais c'est une dame bien quand même, parce qu'elle a son gant, elle a sa rose, elle a son...
Voilà, absolument. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs d'autant plus séduisant que c'est une femme bien, entre guillemets. Hein. Voilà. Elle est là, elle a l'air son étole, enfin bref. Tout ça est très... Ce sont ses gants, d'ailleurs, pardon. C'est donc une femme tout à fait convenable, mais en même temps qui s'adonne devant nous à une occupation qui n'est pas trop officielle, on va dire. Voilà, donc cette espèce d'ambiguïté entre une dimension officielle et plus intime est quelque chose qui taquine un peu l'essence de celui qui sait voir. Hein. Il y a en effet cette dimension-là. Donc vous voyez que c'est intéressant parce que, à vrai dire, vous ne trouverez pas des milliers d'œuvres françaises du début du XIXe siècle avec justement cette espèce de déséquilibre hein, et de entre quelque chose qui fait de cette peinture une peinture, j'allais dire, normale, un portrait, et qui en même temps est une œuvre qui nous montre quelqu'un dans, j'allais dire, une attitude qui n'est pas très officielle. Ce déséquilibre-là fait tout l'intérêt de cette œuvre, décidément très très originale, de Marie-Denise Villet.
Non.
Artemisia, 17e.
C'est Julia Lama.
Julia, hein? Julia Lama. Rappelez-vous, on l'a vu tout à l'heure, hein? Hein, vous rappelez Julia Lama, vous rappelez tous et toutes. Hein, hein. Elle est originaire d'où, Julia Lama? Venise, c'est une vénitienne. Et alors, est-ce que vous vous rappelez de quel peintre Julia Lama, on l'a dit la dernière fois, est proche? Un des peintres vénitiens du 18e les plus connus. Hein. Pardon? Non, du 18e. Du 18e. Non, Giorgione, c'est antérieur. Un peintre vénitien du 18e, alors on connaît toujours Guardi et Canaletto, okay, mais il y en a deux autres bien célèbres. Titien, c'est bien plus ancien. Hein. Titien, c'est 16e. Là, on est au 18e, deux siècles après. L'un des grands peintres vénitiens du 18e, il s'appelle Piazzetta. Comme une petite place, la Piazzetta. Hein. Piazzetta, c'est l'un des grands peintres vénitiens du 18e. Eh bien, Giulia Lama est une artiste qui peint tout à fait dans le même sens hein, que Piazzetta. En tout cas, voilà cette œuvre de Giulia Lama. Ah oui, j'ai oublié de vous demander. J'espère que vous n'avez pas lu. Si, vous avez lu, zut.
Le martyr de
Saint-Jean. Alors, pourquoi c'est le martyr de Saint-Jean? Je vais prendre la chose dans l'autre sens. Si vous avez lu, c'est fait pour lui. Pourquoi cette scène qui est manifestement une scène de martyr? Alors, il est vrai qu'il commence à faire beau, n'est-ce pas? C'est terrible. Si seulement il faisait mauvais, ce serait tellement mieux. Mais on n'y voit pas clair. Hein, ou trop clair, justement. Mais il y a peut-être quelque chose qui peut vous faire comprendre pourquoi cette scène de martyr correspond au martyr de Saint Jean. Saint Jean, l'évangéliste, pas Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste, son martyr, ça a été quoi?
Décollation.
Voilà, hein, décollation de Saint Jean-Baptiste, Salomé, Rodia, tout ça vous connaissez. Bien. Mais Saint Jean, l'évangéliste, ça on parle beaucoup moins de son martyr. Il a été martyrisé comment? Parce qu'il a écrit l'évangile. Il a écrit quoi d'autre, Saint Jean évangéliste?
L'Apocalypse.
L'Apocalypse, hein? L'Apocalypse, la Patmos. Hein,
ligature les mains.
Alors, oh oui, les mains sont ligaturées dans le dos. Hein. Il a été martyrisé. Eh oui. Ouais, ouais.
Oui, mais il n'est pas mort de son martyr.
À ma connaissance, si.
Ah.
Ouais.
Non.
Non, non. Ah ben, il a été dans son île, mais c'est après. Hein. Mais vous savez, il y a aussi les textes apocryphes, notamment la légende dorée, hein, qui quelquefois prend des libertés avec la réalité. Hein. Alors non, vous avez un personnage derrière, là, qui tient quelque chose. Non.
On ne voit pas ce qu'il y a.
On voit mal. Hein. En fait, il tient, qu'est-ce qu'il peut tenir, à votre avis? Parce que là, il y a un soldat qui est en train de lui gâturer les mains pour le martyriser, d'accord? Et devant, il y a quelqu'un qui a une capuche, une sorte de prêtre, hein, qui tient quelque chose. Ce prêtre-là, pardon? Ah, pas un crucifix, parce que justement, si Saint Jean est martyrisé parce qu'il croit dans le crucifix, ça ne va pas. Hein, hein, donc, ce n'est pas un crucifix. Qu'est-ce que ça peut être? Ce grand prêtre-là, qu'est-ce qu'il peut tenir? Pardon? Une idole. Il tient une statue qui est quelque idole antique. Là, vous devinez peut-être un personnage, peut-être une sorte de Minerve. On a l'impression que cette figure a une lance. Hein. En fait, il y a là quelques prêtres de quelques cultes païens qui est en train d'essayer de convertir Saint Jean à la religion, cette religion-là. Et puisqu'il ne veut pas, il regarde du côté du ciel, de Dieu, etc., on va le martyriser. Et quel martyr? Eh bien, on va le faire bouillir.
Quelle horreur.
C'est sympathique. On va le mettre dans un gros chaudron avec de l'huile, de l'eau, enfin, tout ça a été bouilli. Et ce que vous voyez à gauche, c'est... Mais alors, vraiment, on voit mal. Hein, c'est justement le rebord du gros chaudron dans lequel, plouf, on va plonger Saint-Jean. Hein. Ben, on devine une ombre, mais bon, hélas.
Non,
donc, Giulia Lama, hein, notre chère vénitienne du 18e, dont voilà d'ailleurs, par Piazzetta, un très beau portrait. Hein. Vous voyez que l'art de Piazzetta est très très proche de Giulia Lama. Alors, encore une fois, on a du mal à le voir à cause de la lumière, mais bon, quand même, vous devinez, hein, que Piazzetta et Giulia Lama travaillent avec une sorte de clair-obscur hérité du XVIIe siècle, d'une certaine manière. Hein. Une sorte de volonté un peu post-caravagesque. Hein. Sauf que Caravage et Artemisia, c'est évidemment le XVIIe siècle. Là, on est un siècle après, mais on a l'impression qu'on reprend pour soi ce genre de style-là. Hein. Bien. Giulia Lama. Septième tableau. Ça ressemble à la Dame du Pastel. C'est qui la Dame du Pastel? Bon, ils font du nom. Hein. Pardon. Rosalba Carrière. Donc ce serait une œuvre de Rosalba Carrière.
Non, non, non.
Ça n'est pas une œuvre de Rosalba Carrière.
C'est
fort blanc. Eh oui, mais non. D'ailleurs, est-ce vraiment un pastel?
Non.
C'est de l'huile. Hein, c'est une peinture. Qui peut avoir réalisé cette peinture?
La Bille?
Non.
La Bille Guillard?
Non.
Non.
Alors, quel est le sujet? Peut-être, mais quel est le sujet?
Quel est le sujet?
C'est une dame qui reçoit une lettre.
Une dame qui reçoit une lettre.
Elle
n'est pas tellement contente. Donc, vous voyez effectivement une dame assise qui vient de recevoir une lettre. Elle fait un peu une drôle de tête, hein, elle n'est pas tellement contente. Hein. Et pourquoi elle n'est pas très contente?
Parce que c'est une mauvaise nouvelle.
Parce que c'est une mauvaise nouvelle. D'ailleurs, le tableau s'appelle La mauvaise nouvelle. Et puisque c'est une mauvaise nouvelle et qu'elle n'est pas très en forme, qu'est-ce qui se passe? Alors, voilà. D'abord, elle s'évanouit plus ou moins. Hein. Sa servante est là, ou du moins une amie, enfin, une proche. Et qu'est-ce qu'elle fait?
Elle lui tape la
joue, mais pas que. Voilà, elle lui amène des sels. Hein. Elle est en train d'amener quelques petits flacons et les sels, sûrement, vont la remettre en forme. Hein. Voilà. La mauvaise nouvelle. Qui peut être l'auteur de cette œuvre? Voilà. C'est Marguerite Gérard. Vous vous rappelez de Marguerite Gérard? Hein. Qu'est-ce qui... Pardon? La belle-sœur de Frère Bénard. Qu'est-ce qu'on a vu d'elle tout à l'heure?
Le verrou.
Pas le verrou. Le baiser. À la dérobée. qu'est-ce qui, entre ce fameux baiser à la dérobée qu'on a vu la dernière fois, qu'on a revu tout à l'heure, et cette œuvre-là, qu'est-ce qui nous rappelle cet artiste, belle-sœur de Fragonard? Et là, le tableau a été fait par elle à 100%. Hein, alors que je rappelle que le baiser à la dérobée avait été son disque co-réalisé par Frago et sa belle-sœur.
Et un peu plus tard, à cause des costumes.
C'est un peu plus tard, vous avez raison. Là, on est au début du 19e, absolument. Hein. Donc, Marguerite Gérard, c'est ça le problème pour ces femmes du 18e, surtout de la fin, c'est qu'elles sont à cheval sur les deux siècles. Et c'est le cas de Marguerite Gérard. Hein. Elle naît au 18e, mais elle meurt au 19e. Alors, les modes changent, et vite, à ce moment-là. Hein. Oui, donc, qu'est-ce qui serait un peu comme un fossile directeur, j'allais dire? Qu'est-ce qui vous permet, dans un cas comme ça, quand vous le voyez, de dire tout de suite, c'est Marguerite Gérard? Le travail des tissus, les coloris. Le travail des tissus, vous, qu'est-ce que vous diriez pour le caractériser, pour le qualifier?
La lumière.
Oui, taffeta, satin, c'est moiré, n'est-ce pas?
Ah oui, mais l'autre n'a pas le même tissu, il a un tissu de coton.
Mais qu'est-ce que, au-delà de l'identification des tissus, on pourrait dire quoi à propos de ces tissus et de leur rendu? Alors, tout ce monde-là est convenablement habillé, effectivement. Hein.
Très réaliste comme tissu, enfin,
oui,
vrai.
Très réaliste, hein, effectivement. Il y a quelque chose de la même virtuosité que, par exemple, Anne-Valérie Goster tout à l'heure. Hein. Hein, cette manière de... Franchement, on a l'impression, regardez le vêtement de la jeune Eva Louis, hein, on a véritablement l'impression d'une étude très précise. Enfin, il y a là, rappelez-vous de la robe, vous l'aviez dit la dernière fois d'ailleurs, la robe de la femme du baiser à la dérobée, elle est véritablement virtuose là aussi. Et bien cette même virtuosité des tissus est très vive là-dedans. Marguerite Gérard, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup ça. Hein. Il y a dans ses œuvres une espèce de bonheur à présenter de manière veloutée, pulpeuse. On a l'impression que le tissu froid sont longtemps, n'est-ce pas, hein. C'est ça l'idée de Marguerite Gérard. Hein. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les artistes du temps. Hein. La mauvaise nouvelle. Marguerite Gérard, la voilà. Hein. Ça, c'est une miniature qui la représente, faite par un certain François Dumont. On connaît d'ailleurs, mais c'est plus connu, alors je ne l'ai pas né, des œuvres faites par Fragonard, hein, représentant Marguerite Gérard. Là, c'est une petite miniature qu'il a portée. Huitième tableau.
C'est romantique.
Romantique. Autrement dit, ça veut dire quoi par rapport au tableau qu'on a vu tout à l'heure? C'est après, absolument. Hein. On est là devant un tableau romantique, donc tout à fait postérieur au tableau du 18e. À vue de nez à la louche, vous le situez vers quelle période, ça?
Plus.
Oui. Voilà, alors on n'est pas au tout début, le romantisme, il faut quand même un peu le temps qu'il se fasse. Hein. Je vous rappelle que le radeau de la Méduse de Géricault, c'est 1819, exposition au Salon. Hein. Et ça, c'est un peu le grand tableau romantique, le radeau de la Méduse. Hein. Donc il faut quand même le romantisme et un peu de bouteille pour produire des tableaux comme ça. Donc là, on est en effet dans la première moitié du 19e, certes, mais plutôt dans le deuxième quart. On est vers 1840, 50. Hein. Voilà. Donc on n'a pas du tout vu d'œuvre de cette femme peintre-là. Ça représente quoi?
Cimetière.
Rome?
Non, mais on voit très mal.
Ah, on a l'impression, effectivement, de voir Saint-Pierre, peut-être ici.
C'est
hein. Sauf que c'est pas Saint-Pierre, effectivement.
C'est un paysage.
Mais ça fait penser à Saint-Pierre. C'est un peu une copie de Saint-Pierre. Ça veut dire quoi? Le Panthéon. Absolument. Ce que vous avez là, c'est le Panthéon. Mais le Panthéon de Soufflot est un peu la reprise du fameux chef-d'œuvre de Saint-Pierre, hein, enfin du Vatican. À Paris. Hein. Donc c'est une vue de Paris depuis où? Non. Non. Pardon. Qu'est-ce qui se passe au premier plan?
On ne voit pas.
Oh, un peu. Un cimetière. Vous voyez, voilà. Vous voyez quelques tombes, c'est même la tombe de Gros, ça, le peintre Gros. C'est le cimetière du Père Lachaise, tout simplement. Hein. C'est Paris vu depuis le Père Lachaise. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de romantique dans une œuvre telle que celle-là? Qu'est-ce qui fait que, quand on voit ça, on se dit, il n'y a pas de problème, ça a été votre réaction, hein. On se dit, il n'y a pas de problème, ça ne peut pas être avant le début du 19e, hein, c'est pas possible. Hein. Qu'est-ce qui fait que, quand on la revoit, on se dit, ben, bien sûr, c'est une œuvre romantique, c'est-à-dire une œuvre, on va dire, du deuxième quart du 19e siècle. Qu'est-ce qui alimente la nature, la place de la nature?
Et la mort.
Et la mort. Voilà, le cimetière, la présence de la mort. Hein, qui, le coucher de soleil hein, qui accompagne... Alors, pardon, les deux qui vont ensemble. Hein, voilà. C'est qu'on a là, effectivement, une espèce de conjonction nature et homme. Mais l'homme fait partie de la nature. Il l'oublie trop souvent. Enfin, c'est quand même le cas. Hein. Effectivement, l'idée de l'homme, fut-il déjà dans son cimetière, hein, et la nature, les arbres, le soleil qui se couche, comme la vie qui s'éteint avec le cimetière, si vous voulez, c'est un peu une sorte de métaphore. Hein. Effectivement, tout ça, c'est très, très romantique. Hein. On est vraiment dans une œuvre passionnément romantique. Par une femme peintre, là aussi pas très connue, dommage, elle a produit beaucoup de ces œuvres-là, qui s'appelle Louis Joséphine Sarrazin de Belmont, Sarrazin avec un seul R. Ah oui, c'est aussi le problème des femmes peintes, c'est que souvent elles ont des noms à rallonge, quelquefois elles ont les noms de leur mari, donc voilà. Donc ça n'a pas simplifié leur connaissance, si j'ose dire. Hein. Sarrazin de Belmont.
Ça, c'est notre...
Et ça, c'est Rachel. Rachel, comment? Alors, Ruys en français, Ruys en hollandais.
Et c'est la même forme.
Oui, c'est un peu le même genre de composition, effectivement. Il y a peut-être quand même une différence entre cette œuvre-là et celle qu'on a vue la dernière fois et que je vous ai montrée tout à l'heure. L'œuvre que je vous ai montrée tout à l'heure, c'était quoi? On a vu la fois dernière. Un bouquet. Hein. Oh, il y avait un petit papillon, je crois. Hein. Un bouquet. Là, alors, encore une fois, il fait trop beau pour travailler, n'est-ce pas? Mais quand même, qu'est-ce que vous voyez qui peut-être serait différent par rapport au bouquet de la dernière fois?
Qu'est-ce que c'est, une souche?
Voilà. D'abord, on voit là une sorte de... En fait, il y a un tronc d'arbre, hein, vous le devinez là. Hein. Ce n'était pas du tout le cas. La dernière fois, il y avait des fleurs dans un vase, puis c'était réglé. Quoi, hein. Là, on a des fleurs, mais qui sont devant une sorte d'arbre, hein, que vous voyez là, très noueux. Et puis, qu'est-ce que vous voyez d'autre?
Des
papillons. Une pierre. Des papillons. Il n'y avait pas de pierre. On était posé, le bouquet était, je crois, sur une table de marbre ou quelque chose comme ça. On était dans un intérieur. Là, on est dehors. Il y a une grosse pierre posée devant. Il y en a même deux.
Il y a peut-être un lézard.
Il y a des papillons, effectivement. Et il y a effectivement un lézard. À vrai dire, il y en a même d'autres.
Et une grenouille.
Qu'est-ce que vous voyez là? Dans le fond, hélas, vous êtes bien loin pour voir. Alors, il y a des tas d'escargots. Hein. Notre cœur bourguignon ne fait qu'un tour dès qu'on en voit. Hein. Il y a ici des escargots. Et puis là.
Une grenouille.
Une grosse grenouille. Hein. Et ce que vous ne voyez pas très bien, c'est qu'il y a même un serpent. Eh oui. Grenouille, escargot, serpent, lézard. Qu'est-ce que gros arbre un peu noueux, qu'est-ce que ça vous inspire, une œuvre telle que celle-là, par rapport au sage bouquet de la semaine dernière?
On est sorti.
Pardon? Voilà, alors il y a une dimension effectivement naturaliste, on épingle en quelque sorte les espèces végétales et animales, oui, et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Oui, c'est souvent effectivement ça, parce que qu'est-ce qu'il a dedans évoque l'idée de la fragilité de la vie, de la vanité, pardon, l'idée de la pierre,
mais les papillons, oui. Surtout.
L'idée des papillons, bien sûr, absolument, hein. Les insectes donc, oui, et puis quoi d'autre encore peut-être?
Les fleurs elles-mêmes.
Le vieux tronc, oui, oui, on sent que c'est un arbre qui a de la bouteille, hein. Et puis quoi d'autre encore? Vous aviez dit qu'il y avait des batraciens, lézards.
Le minéral, le végétal,
oui.
L'animal, l'animal.
Oui, ça aussi, ça va dans ce sens-là. Et les animaux, ça vous dit quelque chose, ça? Il y a le goût histoire naturelle, hein, que vous avez pointé. Mais il y a quoi d'autre derrière, notamment derrière le lézard? Pardon?
C'est vrai que dès le XVIIe siècle, on trouve des choses comme ça, notamment des peintures de vanité. Hein. D'ailleurs, rappelez-vous, notre Clara Peters, hein, qu'on a vu au XVIIe siècle, cette nature mortiste hollandaise impeccable, hein, elle a fait des choses, alors c'est pas le même répertoire, il n'y a pas de fleurs ou de animaux, mais c'est la même chose en nature morte. Hein. C'est vrai. Dès le XVIIe siècle, on trouve des choses dans cette lignée-là, absolument. Hein. Il y a une dimension un peu cabinet de curiosité, effectivement. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que depuis des temps très anciens, les reptiles, et en particulier les lézards, sont considérés comme des animaux chthoniens, c'est-à-dire des animaux qui sortent de terre, des animaux un peu liés à la mort et un peu maléfiques. D'ailleurs, peut-être, j'avais il y a des années... produit un cours sur la sculpture grecque, je ne sais pas si certains d'entre vous s'en rappellent, et j'avais notamment montré une œuvre de Praxitèle, hein, le fameux sculpteur grec du 4e siècle avant Jésus-Christ, qui représente Apollon en train de tuer un lézard. Hein. En grec, ça se dit sauroctone, hein, parce que le lézard, il n'est pas bon, il n'est pas bien. Le lézard, il sort de terre. Hein. C'est un animal qui vient diabolique, en quelque sorte, hein, qui sort de la terre, c'est pas bien, comme le serpent. Quoi, hein. Alors, Apollon, qui est un dieu bienveillant, il est sauroctone, il est tueur de lézards, donc il est bienveillant, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc, le lézard, c'est un animal qui n'est pas terrible. Hein. Voilà une manière traditionnelle de regarder cet animal, que moi, je trouve très sympathique, d'ailleurs. Mais bon, c'était pas forcément la façon de le voir dans les temps très, très anciens. Donc, dans un tableau tel que celui-là, il y a effectivement plusieurs choses. Il y a toute la dimension naturaliste. On épingle des espèces botaniques, animales, des insectes, etc. Ça, c'est la première chose. Et puis, cette dimension de vanité. Hein. Des fleurs, elles vont passer. Les papillons vont durer qu'un jour. La grenouille va se faire bouffer par le serpent. Et le lézard, il sort de terre. Quoi, hein. Donc, il y a ce genre de choses-là. Hein. Et vous avez raison, on voit ça dès le XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, il y avait même certains artistes hollandais ou flamands qui, chez eux, avaient des espèces de grands bocaux, dans lesquels ils élevaient des serpents, des choses comme ça. Notamment, je pense à un qui s'appelle Otto Marcis van Schrick, qui, chez lui, avait un grand aquarium dans lequel il élevait des serpents. Et puis, comme ça, ça a été plus simple pour les dessiner et les peindre dans ses tableaux. C'est donc, effectivement, très, très à la mode. Donc là, c'est une œuvre de Rachel Reusch, qui est effectivement très à la mode du 17e, pourrait-on dire, hein. Et qui est, j'allais dire, un peu plus contondante, hein, que le gentil bouquet de fleurs de la semaine dernière. La voilà, Rachel Reusch, hein, qui est portraiturée par Gottfried Schalken, qui est un artiste contemporain de Rachel Reusch. Donc la voilà, c'est elle, cette femme, auteure de ces fameuses natures mortes florales. Et puis là, qu'est-ce que nous avons ? Dans ce 10e tableau, il nous en reste encore 10 derrière. Hein.
Un atelier.
Un atelier de qui, de quoi ?
D'une femme.
Un atelier d'une femme peintre.
Et tous ces messieurs.
De deux femmes peintres. Hein.
Tous ces messieurs regardent bien.
Et tous ces messieurs regardent la peinture en train de se faire. Pardon ? C'est un homme qui pose.
Mais c'est pas le roi ?
Non.
C'est pas le roi. Non, c'est pas le roi. Non, l'homme qui pose est un académicien, donc il a un beau vêtement. Il a même les pieds sur quelques coussins, un très beau chapeau bleu. C'est Vien, en fait, l'homme qui pose. Vien est un artiste qui a eu une grande importance au XVIIIe siècle. Hein. Et Vien est donc là qui pose devant une artiste qui est en train de faire son portrait. Derrière, vous voyez des membres de la famille du modèle. Hein. Alors que là, vous voyez plutôt des gens de la famille des deux artistes. Quel est l'intérêt de ce tableau ?
Les femmes ont une importance.
C'est comme elles sont revenues.
Jusque-là, on n'a pas vu des milliers d'ateliers de femmes artistes. Il y en a quelques-uns. Je ne vous ai pas forcément tout montré. Hein. Il faudrait plus de temps encore. Mais c'est vrai que là, ce qui est intéressant, c'est que de manière très efficace, hein, on montre l'atelier d'une femme peintre. Hein, et même de deux. Enfin, il y en a une qui est chez l'autre. Donc, effectivement, on nous fait pénétrer dans le métier de la femme peintre. Elle a désormais pignon sur rue, en quelque sorte. Vous dateriez ce tableau de quand, à peu près ?
1780.
Fin 18e. Hein. Ok. Ok. Est-ce que vous avez l'impression qu'il est d'une artiste dont on aurait déjà vu une œuvre?
Oui.
Oui, c'est possible. Ça pourrait être Madame Lemoine, effectivement, mais c'est pas. Ça pourrait. Kaufmann,
non.
Ça pourrait.
Non.
C'est pas.
C'est
un peintre français. Gentileschi. Ah non, parce que Gentileschi, c'est carrément 17e. Hein. Donc c'est bien, bien antérieur. Hein. En fait, on ne l'a pas vue, cette femme peintre-là. Chose amusante, elle s'appelle Marie-Gabrielle Calpet. C'est rigolo ça, comme la famille, sauf qu'elle est, elle ne vient pas du tout de la famille royale, comme les Capétiens. Marie-Gabrielle Capet est en fait une femme d'une famille tout à fait modeste, hein, mais qui est devenue une femme peintre assez, assez connue parce que elle était l'amie et l'élève d'une autre femme peintre qui était elle-même l'épouse du peintre François-André Vincent. Je vous en ai déjà parlé.
Oui.
C'est qui? C'est qui, c'est qui, c'est qui?
Oh non.
Et c'est d'ailleurs elle qui est ici représentée.
Oui, elle nous regarde.
Elle nous regarde. Donc il y a la maîtresse qui est là, qui quand même seconde son élève, qui est là et qui est en train de faire le portrait.
À deux.
Elle est en train plutôt de recharger la palette. Hein. Voilà. Elle l'accompagne, elle l'aide. Quand on est la maîtresse de son élève, il faut un peu accompagner. Hein. Qui peut être d'ailleurs ce personnage-là?
Tantôt.
Non.
Voilà, c'est Vincent. Hein. C'est François, André Vincent, c'est-à-dire le mari de cette femme peintre. Pas de Capet, hein, mais de l'autre. Vous ne rappelez pas son nom? Bon, on en reparlera tout à l'heure. Voilà, donc c'est un tableau très très intéressant qui effectivement nous fait entrer dans l'intimité picturale féminine. Alors, on est au tout début 19e. Hein. C'est vrai que c'est un tableau qui pourrait être fin 18e, hein, mais qui est tout début 19e.
Ah oui, mais les académiciens, de fait, avaient encore des habits de ce type-là.
Absolument. Les habits, oui. D'ailleurs, dessinés par David dès la fin du 18e. Et puis, cette mode-là est une mode qui pourrait être celle des dernières années du 18e ou du tout début du 19e. On est vraiment... Voilà d'ailleurs un autoportrait de cette Marie-Gabrielle Capet, plus jeune dans cet autoportrait que dans le tableau précédent. Très beau portrait. Mais passons au tableau numéro 11.
En Rosalba.
Pardon ?
Rosalba.
Ah, voilà. Voilà qui est de notre Rosalba, n'est-ce pas ? Rosalba
Carriera.
Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est d'elle?
Pastel.
Voilà, ça c'est un pastel, hein. Là on le voit tout de suite. Tiens, est-ce que vous avez une idée du modèle? Pas parenthèse, cette Rosalba Carriera, mais je vous l'avais dit la dernière fois, elle a été hyper célèbre. Elle a fait le tour de l'Europe entière, une sorte de génie. Vous savez, Mozart a fait le tour de l'Europe entière, parce que voir un jeune garçon en train de faire ce qu'il faisait, c'est extraordinaire. Mais voir une femme faire du pastel, c'est quand même extraordinaire, hein, parce qu'une femme ne savait rien faire, bien entendu. Donc voir une femme qui fait du pastel, c'est quand même étonnant au XVIIIe siècle. Hein. Donc elle a fait le tour de l'Europe. Hein. C'est d'ailleurs, je l'avais dit la dernière fois, pour ça qu'en France, par exemple, va beaucoup se développer le pastel. Ça donne Maurice Fontaine-Latour, par exemple. Hein. Donc vous voyez que ça a été moteur, cette histoire de Rosalba Carriera. Pas qu'en Italie. Hein. Cette Vénitienne-là a lancé la mode du pastel en Europe, d'une certaine manière. Et quand elle est passée en France, et notamment à Paris, elle a croisé un peintre important en ce début... Pardon ? Exactement. C'est Antoine Watteau. Donc le portrait que vous avez là, c'est Antoine Watteau. Alors dans le Nord, on dit Antoine Watteau. Hein. Vous savez qu'il est de Valenciennes. Alors normalement, il vaut mieux le prononcer à la nordique, Antoine Watteau. Hein. Voilà le portrait d'Antoine Watteau. Qui va d'ailleurs mourir peu de temps après. Un très beau portrait réalisé par Rosalba. Rosalba, dont vous voyez ici un autoportrait. Alors, je vous ai passé volontairement ce portrait-là, qui est un autoportrait tardif. Hein. Elle en a fait toute une série d'autres. Hein, des portraits de Rosalba, des autoportraits, on en a plein. Mais ça, c'est un autoportrait assez tardif que je trouve très beau pour ma part. Hein.
Elle a 70 ans. Pardon. Elle a quand même 70 ans. Oui, oui.
Et en plus, à la fin de sa vie, Rosalba Carreira devient aveugle. Donc là, vous êtes là juste avant les problèmes de vue qu'elle va avoir. Donc je trouve que c'est un portrait assez pathétique. Mais qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cet autoportrait aussi ?
Elle commence à avoir des cheveux blancs.
Ah oui, nettement, oui, absolument. Absolument. Ouais, ouais. Et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant aussi ?
Comme elle l'a cadré que la tête.
Oui, c'est effectivement très cadré. Oui, un côté très instantané. C'est-à-dire que c'est pas apprêté, elle n'a pas pris la pose pour chaque. Ouais, il y a un côté instantané, un peu direct. Et en même temps, il y a. Il y a le côté cadré que vous disiez, Zier, mais il y a peut-être une chose assez frappante aussi.
Les yeux verront.
Les yeux, le regard, oui.
Et très volontaire.
Oui, une sorte de côté assez volontaire.
Les yeux ne sont pas de même couleur.
Ah, c'est possible, oui. Oui, il y aurait un œil plus marron que l'autre, peut-être. 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 Il faut creuser la question. Ouais. On a aussi l'impression, qu'est-ce que c'est que ça ?
Des papillotes ?
Je crois qu'elle a une couronne. Je crois qu'elle s'est mis une sorte de couronne. Hein? C'est une couronne de laurier. Et on a l'impression de la voir de l'autre côté aussi. Regardez-la. Oui, de manière très allusive. C'est quoi ça ? D'ailleurs, cette idée aussi de cadrage, de assez près, ça peut évoquer quoi ? La couronne, le cadrage, comme ça ? Rien ?
Parce qu'un Christ.
Oui. Voilà, un côté antique, c'est-à-dire que on est là devant. Oui, vous voyez qu'en plus on voit pas grand-chose de son vêtement. Enfin, il y a un côté un peu plus à l'antique, quoi. Un empereur couronné, n'est-ce pas, de quelques lauriers. Et puis, espèce de. Vous avez dit d'ailleurs qu'il y avait une sorte de regard un peu autoritaire, enfin, on sent quand même quelqu'un. Cette dimension-là est, je crois, assez présente dans un portrait tel que celui-là. Hein. Et notamment, surtout, la couronne. Hein. La couronne, c'est quand même très, très clair. Et ça. Alors, est-ce qu'on a vu des œuvres de l'artiste qui a réalisé ce beau portrait féminin ? Non. Non. Donc, on est effectivement au 19e siècle. Vous dateriez de quand, ce tableau-là ?
1840-1850.
40-50, vous vous disiez quoi ? 50 ? Un petit peu avant ? Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans un portrait comme celui-là ? Voilà, c'est que c'est une femme noire. Hein. Donc ça, évidemment, c'est une chose importante. Hein. Quand est-ce qu'on commence en Occident à représenter des personnages de couleur ? Alors, les orientalistes au 19e vont le faire beaucoup, absolument. Hein. Mais dès avant, hein, les peintres... Oui. Alors, lorsqu'on n'a pas... Effectivement, vous vous rappelez, Le Sueur est petit, hein, ces peintres qui ont, été en Australie lorsque Bonaparte fait faire cette expédition. On était au tout début du 19e, hein, autour de 1800-1810, absolument. Hein. Mais dès le 18e, hein, on représente des personnages de couleur. Hein. Ça fait partie aussi de cette ouverture des Lumières, hein. Et puis à cette contestation de l'esclavage aussi, hein, qui commence au 18e. Hein. Je me rappelle quand même que les philosophes, certains sont très virulents contre l'esclavage. Hein. Et la Révolution va prendre des mesures énergiques contre cela. Hein. Voilà. Donc effectivement, cette liberté nouvelle, cette honorabilité gagnée par les gens de couleur, elle est en quelque sorte validée par la peinture. Hein. Donc ça, c'est définitivement une œuvre d'une femme peintre. C'est une femme, comme par hasard, qui fait ça. Les femmes sont bien révolutionnaires. Hein. Tout à l'heure, elle nous proposait cette femme en train de lacer sa chaussure. Quelque chose vraiment de très incongru, de très nouveau, de très étonnant dans le paysage un peu plan-plan, finalement, du portail à la fin du 18e. Là, on avait quelque chose de très nouveau. Hein. Et voilà que cela récidive, d'une certaine manière. Hein. On voit qu'il y a dans la peinture féminine des voix très intéressantes, hein, très novatrices, hein, très singulières. Ça, c'est une œuvre d'une dame qui s'appelle Madame Benoît. Hein. Marie Guillemine Benoît. C'est un tableau très tôt, hein, 1800. Ouais, oui. Hein. Vous voyez, c'était une œuvre finalement là aussi très étonnante, parce que quand on la voit sur la date, on se dit, oh ben là, on doit être vers le milieu du 19e. Pas du tout, hein. On est vraiment à la 1800, c'est la dernière année du 18e, d'une certaine manière. Hein. Voilà. Ouais. Très beau portrait de femme de Madame Benoît. L'ouvre encore. Hein. Et ça, un tableau qui porte bonheur, 13.
Angelica Kaufmann.
Pardon ?
Peut-être.
Déjà romantique. Ouais. On a vu un tableau de cette même artiste avant, à votre avis ? Dans notre brochette des 11 tableaux de tout à l'heure ? Non. Effectivement, on n'a pas vu d'œuvre de cet artiste-là. C'est un tableau qui nous représente quoi ?
C'est bien triste.
C'est bien triste. C'est triste, triste, triste. Alors c'est un tableau qui est, j'aimais bien votre expression tout à l'heure, vous disiez déjà romantique. Hein. C'est vrai parce que c'est un tableau qui est du début du 19e, on est autour de 1801 exactement. Mais donc c'est avant le déclenchement du romantisme, et pourtant c'est déjà romantique. Qu'est-ce qu'il y a de romantique dans un tableau tel que celui-ci ? Pardon ? La nature, la forêt, oui. Oui, une lumière qui pointe dans une forêt bien sombre. Qu'est-ce qu'il y a encore de romantique dans une œuvre telle que celle-là ? L'attitude du personnage, oui, qui est comment cette attitude ?
Courbée, résignée.
Ouais. Mélancolique. Voilà. Mélancolique, hein. Plus que triste, c'est un tableau qui suggère cette idée de mélancolie. D'ailleurs, il s'appelle La Mélancolie. Et c'est dû à une artiste qui s'appelle Madame Charpentier, Constance Marie Charpentier. Vous voyez quand même ce foisonnement d'artistes en France, d'artistes femmes, fin 18, début 19e. Ça aussi, c'est un acquis de la Révolution, on le dit peu. Eh bien voilà, une femme, n'est-ce pas, qui nous propose cette mélancolie. Un tableau, effectivement, déjà très romantique. S'il y a très romantique aussi, c'est, mais vous l'avez vu tout à l'heure pour le paysage, hein, c'est l'alliance de l'homme et de la nature, de la femme et de la nature. Hein. La mélancolie qui sourdit, si j'ose dire, de la figure de la femme, est celle qu'on retrouve dans le paysage. Hein. Bien sombre, très beau, mais bien sombre, où une lumière, par contre, apparaît quand même. Hein. Ça, c'est vraiment très, très romantique, mais avant le romantisme.
Le reflet, là, sur le
oui.
C'est une écharpe ou c'est sa robe ?
C'est une écharpe. À droite, c'est une écharpe, une étole. Hein. Voilà, à droite, par terre, il y a une étole, vous êtes ces étoles, enfin, je ne veux pas, mais de ces étoles qu'on porte quelquefois sur les épaules ou sur les bras et dans le dos. Hein. Voilà d'ailleurs un autoportrait de Madame Charpentier, hein, qui en a fait bien d'autres. Hein. Oui, premier sautier. Tableau 14.
C'est les Gracques.
Angelica
c'est qui les Gracques ?
Angelica Kaufmann.
Angelica Kaufmann. Vous vous rappelez d'Angelica Kaufmann, hein. La peinture qu'on a vue la dernière fois, qu'on a revue tout à l'heure, et qui représentait quel sujet ? Non, Hébé, c'était Madame Terbuche. Cornélie, mère des Gracques. Hein, grand sujet moral dont on a parlé la dernière fois. Eh bien là, qu'est-ce que ça représente ? Qu'est-ce que ça peut représenter ? Ce tableau d'Angelica Kaufmann, décidément une femme originaire de Suisse d'ailleurs, très intéressée par l'Antiquité, on voit quoi ? Voilà, il y a un amour qui amène un visiteur, effectivement.
Oui, mais il y a les deux petits oiseaux là qui...
Il y a les deux petits oiseaux, deux colombes.
C'est Vénus.
Bah oui, mais il y a l'autre.
L'autre, je sais parce que je suis dans le tableau. Et c'est Paris, c'est Hélène.
Ah.
Hélène.
Redites de qui il s'agit. Donc là,
bah Hélène.
Hélène, et là,
Paris.
Hein. Effectivement, l'amour est en train de mener Paris à Hélène. Hein.
Et l'autre, alors, la troisième.
Et vous avez d'ailleurs, alors là, c'est une copine, si je veux dire. Et là, vous voyez deux tourterelles qui se becquettent. Hein. Voilà. Par parenthèse, qu'est-ce que va provoquer les amours et la... Voilà, la guerre de Troie. Hein. Vous savez que cet épisode, qui a l'air bien primesautier, là au coin de quelques bosquets, va provoquer un des grands cataclysmes mythiques, hein, qui est après tout une des bases de notre civilisation, hein, qui est la guerre de Troie. Hein. On est vraiment, la culture européenne est complètement, j'allais dire, basée sur ce mythe fondamental, fondateur, qui est la guerre de Troie. Et le début de Troie, c'est la rencontre de Paris et d'Hélène. Hein. Ce que vous voyez là, vous savez que Paris ensuite va rapter Hélène, et les Grecs vont donc aller rechercher Hélène à Troie, où Paris s'était replié, et vous connaissez la suite, hein, et puis il y aura l'Odyssée après, enfin vous connaissez tout ça. Hein. Donc on est là devant une scène qui a l'air sympathique, mais qui est en fait un élément, j'allais dire, fondamental, simplement pour qui on est. Hein. Et au XVIIIe siècle, on pense à la même chose. Hein. Voilà. Donc, Angelica Kaufmann. Hein. Alors, Angelica Kaufmann, je vous montre également un autoportrait d'elle que voilà. Hein. Et c'est amusant parce qu'elle se représente, elle aussi, à l'antique, hein, d'une certaine manière. Hein. Voilà. Tableau numéro 15. Alors. Qui est-ce qui peut avoir fait cette femme enrubannée? C'est marrant, ça, quand même. Hein, il est drôle. Hein. J'adore ce tableau. Et puis, c'est assez vif. Est-ce d'une artiste dont on aurait déjà vu des œuvres ou une œuvre?
Oui, la fille de Wigan.
Comment s'appelle-t-elle? Adélaïde Labiguiar. Adélaïde Labiguiar, c'est la femme de qui? C'est la femme de qui, Adélaïde Labiguiar?
Vincent.
On l'a vu tout à l'heure.
André Vincent. François.
François André Vincent. Vous vous rappelez de l'atelier tout à l'heure avec Madame Capet en train de faire le portrait de Vien? Vous avez dit qu'il y avait à côté une artiste? Eh bien, c'est Adélaïde Labiguiar. La femme de Vincent que vous avez vue derrière, en train de montrer à l'élève ce qu'il fallait qu'elle fasse. D'accord ? Voilà une œuvre d'Adélaïde Labiguiar. Hein ? Vous vous rappelez d'ailleurs du portrait de la fille de Louis XV qu'on a vu la dernière fois, avec sa perruque, avec ses neuneux. Avec... Eh bien, vous retrouvez les mêmes neuneux ici, si j'ose dire. Hein ? On est là vraiment dans la même idée, quoi. Hein ? Voilà. D'ailleurs, alors très, vraiment très, très beau et très joli tableau, une femme importante, hein, Madame de Genlis. Hein, Madame de Genlis est une femme de lettres qui tient salon. Enfin, vous êtes devant quelqu'un d'important là aussi. Hein. Je vous montre également un autoportrait d'Adélaïde Labiguiar, que voilà. Hein. Elle aime beaucoup les chapeaux, mais tout à l'heure, c'est pas son chapeau à elle que vous voyez, c'était celui de. Madame Vigée Lebrun. Hein. Mais Vigée Lebrun, comme la Labiguiar, ont beaucoup aimé ses grands chapeaux, n'est-ce pas? Il y a vrai que c'est très coiffant, hein, vous voyez ça, tout de suite, vous avez envie de peindre. Hein. Et alors, là, chose amusante, Adélaïde Labiguiar, elle est représentée ici, avec deux de ses élèves, dont Madame Capet. Rappelez Madame Capet, qu'on a vu tout à l'heure, en train de peindre avec son ami le portrait de Vien. Avec le mari d'Adélaïde Labiguiar derrière qui montrait le tableau, hein. Madame Capet, dont vous avez vu l'autoportrait jeune tout à l'heure. Hein. D'accord? Et la boucle se boucle petit à petit. Hein. D'accord? Ok? Bien. 16e tableau.
Oh. La diagonale.
Ah oui, ça, c'est une diagonale. Qu'est-ce que ça représente? Ça pourrait représenter Psyché. C'est une bonne idée, ça. Hein? Alors, c'est plus simple que Psyché, mais ça pourrait bien. Et en plus, votre remarque est intéressante, on va comprendre pourquoi après. Donc ça peut être Psyché, mais c'est pas Psyché. C'est encore Vénus. Plus simple que Psyché. C'est Vénus. Vénus, avec qui?
Les amours.
Son fils. Alors, avec son fils, l'amour, ils sont en train de dormir tranquillement. Et puis, il y a toujours des petits poutis, des petits amours dans le coin. Hein. Mais il y a l'amour avec un grand A qui dort avec sa mère, et plein de petits amours qui sont là durant leur rêve. Avez-vous une idée de l'auteur de cette œuvre? Est-ce qu'on a vu des œuvres de cette femme dans la brochette des 11 de tout à l'heure? Non, on n'a pas vu d'œuvre d'elle. On a vu une œuvre d'elle tout à fait au départ, il y a 4 séances. Aïe, aïe, aïe. Cela dit, cette femme, vous devriez la connaître. Parce que c'est la compagne d'un artiste qui est né dans notre département. Alors là,
Constance Meyer.
Quel est l'artiste né dans notre département Prudon. Qui a été le compagnon de Constance Meyer?
Prudon.
Prudon est né à Cluny. Vous savez qu'en Saône-et-Loire, hein, il y a trois villes, trois artistes pour une 18e. Il y a Chalon-sur-Saône, Dominique Vivant-Denon, ça marche. Il y a Tournus. Et il y a Cluny,
Prudon.
Pierre Paul Prudon. Hein. Trois grands artistes du 18e qui sont tous trois nés en Saône-et-Loire. Eh bien, Constance Meyer est la compagne de Prudon. Hein. Et d'ailleurs, cette œuvre-là est très très proche d'une peinture de Prudon qui représente Psyché, madame. C'est pour ça que votre remarque était spécialement intéressante. Hein. Parce que vraiment, Prudon et Meyer ont beaucoup travaillé ensemble. Et on est là vraiment dans une sorte de combinaison artistique. Voilà d'ailleurs un autoportrait, très beau, du reste, de Constance Meyer. Hein? Aurait-on vu une œuvre de cette portraitiste-là dans notre brochette des 11 de tout à l'heure? Pardon ?
Non, c'est pas le même style.
C'est pas, voilà, je parle bien de la brochette du départ, hein. Vous savez, les 11 du départ. Dans les 11 tableaux du départ, on a vu déjà beaucoup d'œuvres de ces mêmes artistes, mais ça pourrait être de qui ? Il y a une artiste dont on n'a pas vu d'œuvre encore, pas revu une autre œuvre, je veux dire. Pardon ? Terbuche, on n'a pas vu encore. Effectivement, ça pourrait être ça, mais c'est pas ça. C'est le moine. Marie-Victoire. Vous aviez oublié Marie-Victoire. C'est pas bien. C'est pas bien. Et qu'est-ce que ça représente, ce tableau-là? Un enfant noir, un jeune homme noir. Habillé
en clown. Oh non.
Ah non.
Oh non. Il a très beau gilet brodé.
Très beau gilet brodé. Et puis une veste en soie. Voilà. C'est visiblement un noir qui sert un haut personnage. Effectivement, c'est un haut personnage, ou plutôt une haute personnage, si j'ose dire, puisqu'il s'agit de Zamor. Vous savez qui c'est Zamor? Eh bien, c'est le page de Madame du Barry. Hein? Voilà le page de Madame du Barry, Zamor. Superbe portrait de Marie-Victoire Lemoine. C'est celle qu'on a vue tout à l'heure dans la brochette des 11 du départ. Et si vous voulez l'autoportrait de Marie-Victoire Lemoine, le voilà. Moi, je préfère son portrait de noir à son autoportrait. Mais bon, voilà. La voilà, ici. Alors, il en reste encore 3, 19, 21. Il en reste 4 à voir. Est-ce qu'on aurait vu une œuvre de cet artiste-là, déjà? On est quand, là? Quelle époque? Ça vous rappelle rien, ça? Oui. On est plutôt début 19e. Hein. Quand vous voyez ça, c'est très bonaparto-napoléonien. Hein. Voilà. Eh bien, on est devant une œuvre qui date de 1810, d'une portraitiste qui s'appelle Marie-Éléonore Godefroy. Je ne vous en ai pas parlé jusqu'à présent. On n'a pas vu d'œuvre d'elle encore. On est au début du 19e. Hein. Et donc, voilà une œuvre qui représente les enfants du maréchal Ney.
Ils ont des bonnes bouilles.
Oui. Et là.
Ce chien.
Qui aurait pu réaliser ce portrait opulent ? Il y a du froufrou, il y a du rose, il y a une levrette même. Un chapeau assez ample. Une femme à corte-mande étendue. Fin 18e.
Avant la Révolution.
Est-ce que ça avant la Révolution, est-ce que ça pourrait être d'une femme peintre que nous avons déjà évoquée, dont nous avons revu des œuvres tout à l'heure ? Eh bien oui. Terbuche. Terbuche. Voilà une œuvre de Madame Terbuche. Rappelez-vous son ébé, là, avec sa coupe rosée, n'est-ce pas, tout ça, était assez pulpeux. Voilà une œuvre de Madame Terbuche, dont nous avons déjà vu une œuvre tout à l'heure. Hein. Voilà. Madame Terbuche, dont je vous montre d'ailleurs l'autoportrait, qui ne manque pas de sel, je trouve. Hein. Assez marrant. Vous voyez, elle pose elle-même avec cette espèce de loupe qui est là devant l'œil. Hein. C'est vraiment une gueule que ce portrait-là. Je trouve qu'il y a une très, très belle chose, très, très spirituelle. Hein. Très intéressant portrait. Pardon ? Oui, absolument, Bézicle. Hein. Oui. Tableau très, vraiment très, très intéressant. Très piquant. Hein. Intéressant. Encore un petit effort. 20 plus 21. Voilà, on est encore dans un atelier. Un atelier de femmes ?
Eh ben non.
Là, c'est un atelier d'hommes. Parce que le peintre, il est là en train de peindre. Hein ? Et alors, qu'est-ce qu'elle fait là, cette femme ? Voilà, c'est un modèle. Elle pose. Hein ? Et alors là, c'est une œuvre d'une... Vous situez ça quand ? Pardon ? Oui, 19e. Et quand au 19e ? On est en 1800, on est carrément un peu plus tard.
C'est
néoclassique, c'est romantique.
C'est 30-40.
1830-40, c'est ça. On est vraiment là, à l'époque romantique. Hein. Alors, c'est une femme qui s'appelle Amélie Cognier, qui est la femme d'un peintre qui s'appelle Léon Cognier. Léon est beaucoup plus célèbre que sa sœur, comme par hasard. Hein.
Sa sœur.
Sa sœur. Marie-Émilie est la sœur de Léon. Bon, enfin, ils faisaient souvent des choses ensemble. Et puis, dernier tableau que je voulais vous montrer. Hein, j'ai pas mis le numéro. Numéro 21, c'est le dernier. Grave. Une veuve. Qu'est-ce qu'elle fait, la veuve ?
Elle emmène son enfant
voir le tombeau
du père.
Hein. On voit là le tombeau du père. Alors, madame amène l'enfant voir le tombeau du père. Hein. C'est quel genre de tableau, ça ?
Un peu gothisant. Enfin,
gothisant, hein, absolument. Hein, dans un tableau qui renoue... On est quand, là, à votre avis ? Ça date de quand ?
40.
19e, oui. Tôt, tard ?
Non, 1840.
Autour de 40 ? On n'a pas vu d'œuvre de cet artiste pour l'instant. Hein. On est tôt, en fait.
Hein ?
Vous savez que c'est le romantisme qui a renoué avec l'art gothique. Hein ? Donc c'est à partir en gros de 1815-1820 que se déploie le romantisme en Europe, et en France en particulier, hein, et qu'on s'intéresse à nouveau, notamment, au gothique. Bon. Mais avant ça, avant cette imposition du romantisme qui noie l'Europe entière, favorablement, hein, il y aura quand même des petits bourgeons, si vous voulez. Et parmi les bourgeons néo-gothiques, il y a ceux qu'on appelle les troubadours. Les troubadours sont des artistes qui, au tout début du 19e siècle, avant la déferlante romantique, commencent déjà à s'intéresser à ce gothique qu'on avait longtemps occulté, le 18e, à tourner le dos gothique, comme le 17e, d'ailleurs. Et voilà, vous avez des artistes comme Henriette Lorimier, pardon, toujours Lorimier, c'est pas bon. quoi, qui réalise le tableau que vous voyez ici, qui représente Jeanne de Navarre et son fils, au tombeau du père du fils. Voilà. Henriette Laurier, vous la connaissez peut-être parce que son autoportrait que voilà est au musée Magnin à Dijon. Il ne faut pas aller le chercher bien loin. Hein. Voilà son autoportrait. Alors, si on essaie de faire une sorte de petit résumé de tout ce qu'on vient de voir, si on essaie d'imaginer que toutes les peintures qu'on vient de voir aujourd'hui, on les regroupait dans une sorte de musée imaginaire, hein, où on regrouperait des peintures européennes du XVIIIe et du XIXe siècle, de la première moitié du XIXe, dues à des artistes femmes, ben, il y aurait une salle italienne, hein, 18e siècle, avec... C'est qui à gauche ? Non, à gauche. Moi, je veux avoir le nom de l'artiste à gauche. Julia Lam, hein, et à droite ?
Rosalba.
Rosalba Carrière. Hein, voilà. Et ça va avec les deux qu'on a vus tout à l'heure. Là, je vous avais montré la dernière fois ça. Là, c'est celui d'aujourd'hui. Et là, vous connaissez le tableau qu'on a vu la dernière fois et le tableau qu'on a vu aujourd'hui. Hein. Voilà une sorte de musée imaginaire avec une salle consacrée au XVIIIe siècle italien. Si par contre on s'intéresse aux artistes du Nord, on va retrouver Angelica Kauffmann, on va retrouver...
Ah oui, mais Angelica est allée en Italie aussi.
Ah, elle est allée partout, mais elle est originaire de Suisse.
Oui, mais elle est allée en Angleterre et en Italie.
En Italie, en Angleterre. Elle est allée effectivement un peu partout. Elle a roulé sa bosse, hein, mais elle est originaire... Elle fait partie de ce qu'on appelle les artistes nordiques, de manière un peu, j'allais dire, générique. Hein. Mais elle est allée... Elle est même morte en Italie, d'ailleurs. Hein. Et là,
Terbuche.
Hein. Et là,
Ruisch.
Voilà, Ruisch, Ruisch, etc. Et on pourrait y rajouter les œuvres qu'on avait vues avant. Hein. Vous vous rappelez de Cornélie Merdégrac, hein. Vous vous rappelez notre psyché assez proche de notre pulpeuse comtesse. Et là, la gentille nature morte, fleuriste, et là, la plus, comment dire, offensive qu'on a pu voir aujourd'hui. On pourrait imaginer d'avoir une salle 3 dans ce musée imaginaire avec des portraits français du 18e. Alors à droite, on a Michel Lebrun. Au centre, on a Adélaïde
Labille
Guillard. Hein. Et puis à gauche, Zamor, Le Moine, Madame Le Moine. Hein. Et on pourrait y rajouter les portraits de ces mêmes artistes qu'on avait vus. Hein, Vigée Lebrun avec sa bacchante, la fille de Louis XV, n'est-ce pas, proche de Madame de Genlis, et vous rappelez de ce portrait de peintresse par Madame Lemoine et de son portrait de Zamor. On pourrait même faire une salle toujours France 18e, mais autour d'autres choses que les portraitistes. On pourrait par exemple y rassembler ces scènes de genre et puis ces natures mortes. C'est qui à gauche ? Oui, non, mais le nom de l'artiste. Ah, il faut essayer, hein. C'est facile en plus, hein. Françoise Dubarc, hein. Et à droite, Koester, Anne-Laïe Koester, hein. Et on pourrait, les coraux, voilà, hein. Et on pourrait ajouter la dentelière à droite, effectivement, de la même Françoise Dubarc, et les coraux ici, hein. On pourrait imaginer une cinquième salle avec ces tableaux, vous rappelez, hein, réalisés au début du 19e siècle, qui sont des portraits. Hein. Alors là, c'est, vous rappelez notamment ce portrait, hein, de Madame Capet, où elle est en train de faire le portrait de Vincent. Hein. Pour les autres, on les a vus, et je n'ai pas d'autres œuvres à rajouter par rapport à la brochette du départ, parce que ces artistes-là n'étaient pas dans la sélection du départ, vous en souvenez. Là aussi, on pourrait avoir un certain nombre de scènes de genre, quelquefois tirées de l'histoire. Hein. Vous vous rappelez à gauche, hein. Voilà. Alors, on pourrait évidemment, hein, rapprocher de ce tableau de Gérard le fameux baiser à la dérobée dont on a parlé tout à l'heure. Vous voyez comment on est dans un univers très proche. Sauf que le tableau du haut date encore du 18e et celui du bas du début du 19e. Vous vous rappelez du nom de...
Oui, mais...
Non. Non, c'était le tableau précédent avec la femme. Constance Maillard. Constance Maillard. Et puis ça, c'est Madame Charpentier à droite, mais elle est moins connue. Hein. Voilà. Et puis on pourra avoir enfin une dernière et ultime salle, plus romantique, hein, où on a à la fois notre vue d'atelier tout à l'heure, Sarrazin de Belmont à gauche, je rappelle la vue du Père Lachaise, hein, et puis Hautebourg-Lescot à droite. Hein. Vous savez, ces Italiennes romantiques qui se regardent sous une pergola dans un miroir. Est-ce que vous voyez mieux les accointances, les rassemblements? Ouais. J'avais envie pour... ah oui, je voulais vous montrer ça avant une petite... cinq minutes de conclusion de cette séance. Vous voyez quoi? Un atelier de peintre femme, justement. Vous les voyez en train de... Je trouve qu'elles discutent plus qu'elles ne peignent, d'ailleurs. Je n'ai rien dit. Et vous voyez que cet atelier est dirigé, heureusement, par un homme. Hein, quand même. Bon, je plaisante, évidemment. C'est un tableau d'un artiste qui s'appelle Abel de Pujol. Enfin, c'est un tableau qui représente l'atelier de cet artiste qui s'appelle Abel de Pujol et qui avait créé, parallèlement à son atelier masculin, un atelier pour des femmes, qui a été très célèbre. Et là, c'est un tableau de Madame Grandpierre de Verzy qui représente l'atelier d'Abel de Pujol. Donc, très célèbre parce qu'il incarne bien, hein, cette mode de la peinture féminine. Vous avez remarqué comment, fin 18, début 19e siècle, en France en tout cas, ça fuse de tous les côtés. Hein. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de femmes peintres. Là, j'ai fait une sélection du gratin, hein, mais il y aurait beaucoup à dire. Alors, pour terminer, dans le cadre d'un deuxième et dernier petit exercice très simple, parce qu'il est après tout presque la nuit, hein, je voulais quand même qu'on aborde la deuxième moitié du 19e. La deuxième moitié du 19e, c'est ce qu'on connaît le mieux pour les femmes peintres. Hein. Après tout, ça correspond, grosso modo, surtout le dernier tiers, à l'impressionnisme. Et quand j'avais fait la première séance, le petit sondage, j'avais vu qu'une grande partie des artistes que vous signaliez appartenaient à cette période-là. Hein. Donc, je pense que ça n'est peut-être pas là-dessus qu'il faut absolument insister, mais quand même, j'avais envie pendant 5 ou 10 minutes peut-être qu'on regarde 8 ou 10 tableaux d'artistes de la deuxième moitié du 19e siècle appartenant à la mouvance impressionniste, allons-nous dire, pour essayer de retrouver de qui il s'agit. Mais encore une fois, c'est généralement des artistes que nous connaissons bien. Ça
Du frère de Machine.
Oui.
Mais
c'est
Machine.
C'est Machine. C'est bien de Machine. Absolument. Bon. C'est Berthe Morisot. Hein. Berthe Morisot est en effet mariée au frère de Manet, Eugène Manet. Donc Berthe Morisot est en train de portraiturer son mari à l'île de Wight. Hein. C'est donc un très beau tableau de Berthe Morisot. Le représente. Voilà. Là, je vous montre simplement une autre œuvre d'elle, hein, pour qu'on ait quand même aperçu de son travail. Hein. Le fameux champ de blé.
Mais non, puisque c'est une
femme.
On dirait Manet. Mais c'est pas Manet. Pardon ? C'est pas combien non plus.
Dans les femmes.
C'est une femme, de toute façon.
Mais c'est toujours... C'est pas Berthe Morisot.
Qu'est-ce qui a pu faire ça? On en avait parlé dans la première séance. Ah oui. Si je vous dis Eva...
Gonzalez.
Exactement. Eva Gonzalez. Eva Gonzalez, qui est effectivement une artiste très proche de Manet, très beau tableau, hein, qui vaut absolument tous les Manets du monde, hein, absolument. Hein. D'ailleurs, Eva Gonzalez, c'est elle qui est également l'auteur de ce tableau-là, hein, vous connaissez sans doute, et qui nous rappelle beaucoup quel tableau de Manet, par exemple.
Mais le fifre.
Voilà.
Mais non,
c'est une femme.
C'est une femme. C'est proche de Renoir, mais c'est pas Renoir. Ouais, je vous l'ai déjà montré.
Jeanne Baudot.
Pardon ?
Jeanne Baudot.
Si je vous dis Mary, Mary Cassatt. Mary Cassatt, l'américaine impressionniste, pour faire vite. Hein. Donc voilà d'ailleurs l'autoportrait. Beau, hein.
Oh non.
Ça fait penser, mais c'est pas. Honnêtement, là, c'est une artiste très peu connue. Elle a signé en bas à droite, mais puisqu'on n'arrive pas à lire d'une part, et qu'en plus, elle n'est pas connue. Et je vous la montre parce qu'elle est vraiment, à mon avis, injustement pas connue. Pardon ? Oui, absolument. Absolument. Il y a un faux air de Caillebotte. Absolument. On l'a souvent comparé à Caillebotte, t'as raison. Tout à fait. Absolument. Sont des blanchisseuses. Hein. C'est un tableau tout à fait passionnant de Marie-Louise Petière. Alors, c'est un artiste dont on n'a jamais entendu parler, d'autant que la plupart de ses œuvres sont conservées à Limoux, au musée de peinture de Limoux, et à Limoux, pour voir de la blanquette, on a bien tort. Il faut toujours aller dans les musées parce qu'on apprend plein de choses. Hein. Mais on n'y va pas. Et voilà, et on reste ignorant. Eh bien, Marie-Louise Petier est une artiste absolument passionnante, hein, dont voilà une œuvre hein, qui est effectivement est très très proche de Caillebotte. On est en 1882, un tableau vraiment passionnant.
Hein. Elle est morte jeune.
Elle est morte jeune. Elle est morte jeune. Voilà un autre tableau d'elle. Guignol du village, alors qui est un peu moins impressionniste, hein, qui est plus dans le genre naturaliste, réaliste. Enfin, c'est une artiste vraiment très intéressante que cette Marie-Louise Petier.
Oh, j'ai vu.
Oui. Ah oh, bah oui, j'ai quand même remontré des œuvres parfois, hein, pour en fin d'après-midi à 7h-28, on a le droit d'elle, hein, de lever le pied. Braquemont.
Ah oui, Madame Braquemont.
Madame Braquemont. On connaît mieux Monsieur le Madame.
Oui.
Marie Braquemont. Voilà une autre œuvre d'elle. Hein? Et puis on va dire, oui, au petit palais à Paris, oui. Ouais. Et terminons peut-être, enfin terminons sûrement même, par cette œuvre un peu festive, quelque part.
Beaucheval.
Rosa Bonheur.
Rosa Bonheur. Rosa Bonheur. Alors, ce n'est pas vraiment une artiste impressionniste, mais c'est une artiste de la deuxième moitié du 19e, grosso modo. Qui est présentée là ?
Buffalo Bill.
Eh bien voilà, c'est Buffalo Bill. C'est Buffalo Bill. Hein, c'est Buffalo Bill à une tournée européenne. Hein. Eh bien, Rosa Bonheur y était. Hein. Voilà Buffalo Bill. Hein. Voilà. Alors, c'est sur cette œuvre chevaleresque que nous arrêterons aujourd'hui. Encore une fois, la deuxième moitié du 19e, c'est quand même un peu mieux connu que la première. Hein. Donc, on ne va pas creuser les sillons qui sont déjà bien ouverts. Hein. La prochaine fois, nous aborderons évidemment le 20e. Et puis peut-être autre chose. Mais on verra.
C'est pas
et bien, bonne semaine.
Merci beaucoup.
Et à la fois prochaine.